Bueno, está mucho feliz de que haya venido a este club, porque tenía que ser parce que de fait, avec un grand semblable, une série de questions, parce que première fois, on ne voit absolument pas les liens, ça arrive souvent ces choses-là. Si, je crois qu'on creuse un peu, on arrive à comprendre l'unité de l'île. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, ça me semble la seule possibilité d'unité de l'île et en même temps d'éviter toutes les contradictions apparentes que ce livre semble affirmer. Comparativement au livre précédent, le livre d'Aristote, je crois que la seule manière, c'est d'essayer de comprendre qu'Aristote, de fait, recherche le faux de Lucia. Bah, il le dit explicitement, parce que là, c'est quand même une explication et non pas une interprétation, comme je vais vous dire, on ne le voit pas. Les historiens doivent expliquer et pas interpréter. C'est pas une vue interprétée quand même un peu. Mais c'est autant que ça, il faut suivre exactement le texte. Eh bien, de fait, Aristote nous dit qu'il cherche le bon de l'île. Donc, vous voyez, je t'ai tout le temps de délire, parce que c'est pas si comme que ça, de bien se dire de l'interrogation du ciel et du faux. Alors, nous confondons pas suivant, c'est pour ça que nous avons de la peine à comprendre. Je dirais, pratiquement, n'oubliez pas que les théologiens, ça c'est pour les collectifs, par les théologiens, de fait, nous disent qu'on ne peut pas saisir le vide de Dieu et que par la fait même, on doit chercher le chromosome, ou le chromosome d'un fils. Donc, les théologiens ne font plus la distinction, s'ils ne sont pas très intelligents, n'est-ce pas, ils ne font plus la distinction entre le vide et le chromosome, et puis s'enferment là-dedans. Et au bout d'un certain temps, ils ne voient plus le chromosome en tout cas, et le vide qui est. Alors que le philosophe ici doit toujours faire la distinction entre ce qu'on présente le qui est qui et le faux. Vous voyez, le qui est qui, c'est l'analyse des causes. On est dans l'analyse des causes. Tandis que le faux, c'est la manière d'exister, la manière d'être. Le jugement de la vision. La manière d'être, on est dans le point de vue du jugement existentiel. Vous voyez, ou alors on est au fond à essayer de saisir et à préciser comment une réalité que nous ne pouvons pas expérimenter, mais dans un état nature doit exister, tandis que le point de vue du CSI, c'est l'analyse des causes. Alors je crois que le livre Zeta, le livre Zeta est commandé par le CSI de la substance, c'est le CSI de Lucia, tandis qu'ici nous allons tomber dans le faux de Lucia. Et le faux de Lucia ne se sert qu'à près de CSI. On ne peut pas savoir la manière d'être d'une réalité dans la perspective aristotélicienne. Dans la perspective aristotélicienne, il y a d'abord un jugement d'existence qui dit ceci est. Ceci, c'est poser la question du ciel-ci, et une fois qu'on a posé la question du ciel-ci, on va le poser. Il y a toujours l'ordre de ces trois questions. Le jugement d'existence, le fait d'exister. Ceci est. On ne fait de la philosophie que de ce qui existe. Aristote ne cesse de le dire. Hein. Pour lui, la philosophie n'est pas la philosophie des possibles. Le possible vient après. En quelque sorte, pour mieux mettre en lumière ce qui est. Donc nous partons du fait d'exister, nous cherchons le qui est qui, et nous cherchons le faux. Eh bien, nous trouvons exactement ce parallélisme-là lorsque nous suivons ce qui nous est donné par la métaphysique. Oui. Nous voyons le livre d'État, le fait d'exister la substance, il existe des substances. Tout le monde a fait. Le qui est qui de Lucia et le faux de Lucia. Donc il faut bien saisir ces trois affirmations différentes. Le fait d'exister, ce que c'est la réalité, le qui est qui, qu'est-ce que c'est. Vous voulez savoir le principe de la réalité et puis le faux, le comment. Alors nous cherchons donc ici le faux de Lucia. Alors je crois que quand on est dans cette interrogation-là, on comprend les différentes questions qui se posent. On regarde la chose d'une autre manière quand on cherche le qui est qui, que lorsqu'on se met dans la question de la manière que ça existe. Comment ce qui est premier, autrement dit, comment ce qui est premier dans l'ordre de l'être va exister? Alors, on se pose la question à l'égard des substances sensibles. Vous voyez, c'est très net que lorsque nous sommes à l'égard du faux, nécessairement, il y a une manière d'exister différente de la substance sensible, et une manière différente d'exister de la substance est au-delà du sensible, c'est-à-dire la substance invisible ou la substance divine, les substances divines immatérielles. La substance sensible est toujours matérielle. Tandis qu'au contraire, la substance invisible et la substance divine est immatérielle. Donc on a tout de suite cette division qui n'était pas impliquée dans le scepticisme. Aristote disait, pour savoir la manière d'exister les substances sensibles et les substances immatérielles, il faut savoir le scepticisme. Si on ne sait pas ce que c'est que le scepticisme, on ne pourra pas comprendre la manière d'exister différente de substances, en tant que consubstance. Oui, c'est pour ça que c'est si important. D'autre part, vous allez voir aussi cette chose très curieuse, qu'entre immédiatement ici une distinction qui n'était pas présente dans le livre d'État, car ça devrait absolument plus d'allusion, ici il va tout de suite. Il va tout de suite y avoir une distinction dans les substances sensibles et matérielles, une nouvelle distinction. La substance matérielle sensible prise comme puissance et comme acte. Donc la nouvelle distinction de la puissance et de l'acte va apparaître. Et c'est très important de souligner que la distinction de la puissance et de l'acte apparaît au niveau du pôle. C'est une distinction qu'ils avaient à l'intérieur du corps. Comment les réalités du totem, elles existent ou d'une manière potentielle, en puissance, ou elles existent en acte. Vous voyez, deux manières d'exister. Alors on comprend comment ensuite, nous arriverons au livre d'État, parce qu'il faut que vous voyez tout de suite un peu l'ordre des différents livres, on arrivera au livre d'État et on se demandera qu'est-ce que c'est que l'acte. Vous voyez, l'acte intervient d'abord par le point de vue de la manière d'exister. Les choses existent de manière. Elle existe en acte, elle existe en puissance. La puissance sensible existe en acte, elle existe en puissance. On ne peut pas dire que la puissance sensible existe en puissance, parce qu'elles sont à devenir. Si les puissances sensibles n'allaient pas à devenir, il n'y aurait pas de puissance. Mais puisqu'elles ont à devenir, il y a une génétique des puissances sensibles, il y a une corruption des puissances sensibles, par le fait même que nous pouvons regarder les puissances sensibles en puissance ou en acte. Alors c'est ça qui, je crois, nous fait bien saisir ce que représente cette nouvelle manière, c'est une manière beaucoup plus concrète. Et parce que c'est une manière beaucoup plus concrète, elle va impliquer ces deux modalités particulières, la modalité d'être en puissance et la modalité d'être en acte. Et alors nous comprenons qu'après avoir saisi ces deux modalités de la puissance sensible en puissance et en acte, on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'acte? Qu'est-ce que c'est que la puissance? Oui. Génétiquement. C'est important de voir comment les problèmes se saisissent successivement dans la pensée d'Aristote. Alors, si vous séparez les problèmes, vous ne voyez plus comment ces problèmes se tiennent. Donc on va se poser comment ce qui est premier dans l'ordre de l'être va exister. Et ceci d'abord dans les substances sensibles. Puisque de fait, c'est les substances sensibles que tout le monde attend. Et donc c'est celle-là que nous allons regarder en premier lieu. Ce qui est premier dans les substances sensibles, ce qui est premier dans les substances sensibles, sous le point de vue du pôle, c'est bien ce qui joue le rôle de sujet. Vous interprétez tout à fait différemment. Quand il s'agissait du qui-est-il, on avait écarté le sujet. Parce que lorsqu'il s'agit du qui-est-il, la substance, le sujet ne définit pas ce que c'est la substance. Tandis qu'au contraire, si vous êtes dans la question du pôle, comment la substance sensible existe-t-elle? Quelle est la première chose que nous voyons dans les substances sensibles en tant qu'elles existent? C'est le point de vue du sujet. Parce que c'est le point de vue du sujet qui demeure. Et donc c'est bien l'aspect premier de cette interrogation du pôle à l'égard des substances sensibles. Alors c'est le ton upo caïménon. Et Aristote insiste, le ton upo caïménon. Vous voyez, aujourd'hui on écrirait de cette manière-là pour bien saisir comment le point de vue d'Aristote ici est bien mis en lumière. Le upo. Et puis, qu'est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire ce qui est situé en dessous. Le sujet, c'est ça. C'est ce qui est situé en dessous. Ce qui est situé au-delà de tout ce que représentent les mouvements. Donc, c'est ce qui demeure. Ce qui demeure, c'est ce qui est situé au-delà des transformations. Donc, c'est bien le point de vue du sujet. Or, le sujet est premièrement la substance matière. Selon tout l'être des modalités qui s'appliquent. Donc, après avoir vu que le pôle des substances sensibles, on dit que c'est le sujet qui est traité tout de suite, et le sujet est premièrement matière. C'est le point de vue de la matière. Donc, au niveau du pôle, nous pouvons dire que la substance est matière. Au niveau du pôle. Au niveau du qui est-il, on ne peut pas le dire. Mais comme c'est délicat et qu'on prend l'état matériellement, comme vous dites, il y a des contradictions dans un peuple. Il n'y a pas de contradiction. C'est tout simplement deux lectures différentes, deux interrogations différentes par rapport à la même réalité. D'un côté, vous êtes au niveau maintenant de l'être, connaître, de qui est qui, quelle que c'est la substance. De l'autre, au contraire, vous êtes au niveau du beau, la manière d'exister. Alors la manière d'exister, vous regardez d'abord les réalités que vous voyez. Donc c'est bien la substance matière qu'on va regarder en premier lieu. Mais il souligne, selon du reste, des modalités très différentes. Parce que de fait, la substance matière va se réaliser d'une façon très différente selon qu'il s'agit de la matière sujet du mouvement local et de la matière sujet de la génération. Aristote donne ici tout de suite une grande distinction qui chez lui joue un rôle très important, donc la substance corps en puissance, c'est le point de vue de la matière. Alors la matière va se donner de deux manières, la matière à l'égard du mouvement local et la matière au niveau de la génération. Deux matières. La matière à l'égard du mouvement local, vous dites bien, c'est Michelot. Ce sont tous les corps célestes. Tous les corps célestes représentent une matière à l'égard du mouvement circulaire. Les corps célestes sont incorruptibles dans la perspective d'Aristote. Dans la perspective d'Aristote, les corps célestes sont incorruptibles. Mais les corps célestes sont en mouvement. Cette chose très curieuse, le Michelot d'Aristote, c'est un très beau roman. C'est un roman magnifique. Parce que c'est de montrer que de fait, il existe des corps sensibles parfaits. Mais c'est bien la vision du cosmos grec où il fallait trouver un ordre dans le monde sensible. Et pour trouver un ordre dans le monde sensible, il faut nécessairement que les corps sensibles et plus parfaits soient au-delà de la génération. Mais cependant, ils sont dans le mouvement. Alors, ils peuvent être dans le mouvement parce que le mouvement local est le mouvement le plus parfait et qui n'implique qu'une matière à l'égard du mouvement local. Donc les corps, vous voyez, quand il s'agit des corps célestes, les corps célestes, c'est les étoiles, c'est les voisins, n'est-ce pas ? Ces corps célestes ont une matière, donc une puissance uniquement à l'égard du mouvement local. Tandis qu'au contraire, le point de vue des corps sublunaires, c'est-à-dire ce que nous constatons immédiatement, ont une matière sujet à la génération. Et là, vous voyez, c'est simplement la distinction. C'est important parce qu'il nous montre du côté du pauvre, il y a autre chose dans l'étude de ce que représente la substance des corps célestes et autre chose dans la substance des réalités sublimes. Ce qui est le plus difficile, dit-il, après avoir fait ça, c'est de préciser le comment de la substance sensible comme acte. Vous voyez, il a commencé par la puissance, c'est plus facile. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de voir la substance sensible, la substance matérielle sensible, comme acte. Le pont de la substance sensible en acte. Energeia, le mot energeia est la fréquence. C'est la première fois, d'une certaine manière, qu'on le trouve dans l'analyse philosophique. Et nous trouvons dans la lumière, des tout à l'heure, du pont. Alors, c'est très curieux, ici, Aristote rappelle la théorie de Démocrite. Je ne vais pas dessus, la théorie de Démocrite intéresse Aristote ici, parce que Démocrite a l'air de dire que la substance, c'est tout simplement l'indifférence. Alors, c'est difficile, comme toujours, c'est vieux, parce qu'on ne voit pas très très bien ce que ça vient faire ici, et on ne voit pas non plus très très bien la critique d'Aristote. C'est pas si quand même, c'est pas qu'on a compris, on voit. Mais il faut saisir, parce que c'est donné de façon assez descriptive. Alors, voici ce que dit Aristote, je le redis, hein, très rapidement, l'essentiel, je ne dis pas le fait, je vous donne l'essentiel du texte. La théorie de Démocrite, c'est que l'indifférence, qui constitue la réalité, ces différences viennent de la proportion, de la tournure, c'est-à-dire de la position ou de l'ordre. Pour Démocrite, vu dans la perspective d'Aristote, il y a trois grandes différences qui constituent les réalités sensibles. Le schéma, la thésie et la partie. C'est-à-dire la figure, schéma ou chaîne, la position thésie, et puis la partie, l'ordre. Mais elles sont, ajoute Aristote par rapport à Démocrite, elles sont très nombreuses, c'est-à-dire qu'elles se présentent de multiples manières. Par exemple, ceci est le seuil d'une maison, pas le seuil de la porte. Ceci est le seuil parce qu'il a cette situation. En effet, vous définissez le seuil d'une porte en fonction de sa situation. Le bas et le haut, n'est pas, c'est très très net, mais on va dire le seuil en regardant le haut, tiens, c'est là le seuil. Non, ça ne va pas. Le seuil, c'est toujours ce qui est situé de telle manière. Alors, c'est le « outo kenta ». C'est ce qui est situé signification, c'est son être. Cette signification signifie l'être placé de telle manière. Et c'est très curieux pour la question d'existentialisme, c'est ça qui est intéressant. Vous définissez un être en fonction de sa situation, en fonction de sa position. C'est être placé de telle manière. C'est l'être position de Kant. Vous retrouvez exactement la même chose. C'est le taux, aimable, taux, ou tant, autant qu'elle parle. C'est le fait d'être posé ainsi. Voici le taux aimable. Selon Démocrite, le taux aimable d'une réalité, donc l'être d'une réalité, c'est le taux qu'elle parle. Le fait d'être situé ainsi lui-même. Donc le fait d'être situé définit l'être. Pour certaines choses, leur être est défini par toutes les différences. Dans ces conditions, ce qu'il faut, c'est appréhender. Alors, c'est là où la critique d'Aristote arrive. On ne doit pas accepter cette position-là. C'est-à-dire que l'être d'une chose, c'est d'être situé. Si vous définissez l'être d'une chose, le fait d'être situé, vous ne voyez plus la différence entre l'être naturel et l'être artificiel. C'est ça qui va revenir tout à l'heure là-dessus. Voilà. Pour une réalité artificielle ou une réalité naturelle, toutes les deux peuvent être situées. Et leur être est constitué à la même définition qu'il s'agit de l'être de nature, naturel ou d'être artificiel. Alors, Aristote n'accepte pas. Voici la critique qui me semble qu'il fait. Évidemment, selon le texte, on ne voit pas que c'est la critique. Mais je crois, si nous sommes attentifs, nous voyons bien que c'est la critique. Donc là, je suis obligé de dire, Aristote va commencer la critique. Dans ces conditions, ce qu'il faut, c'est appréhender les genres qui contiennent les différences. Alors, c'est là où Aristote, évidemment, fait la critique par rapport à Démocrite. Pour Démocrite, l'être d'une chose se définit par sa différence. Être égale différence. Et la différence égale situation. Donc l'être d'une chose, c'est sa situation. C'est le fait d'être situé, d'être placé de sa manière. Qu'est-ce que va dire Aristote pour critiquer ça? Il dit attention. Non. Parce qu'il faut appréhender les genres qui contiennent les différences. Donc on ne peut pas identifier l'être et les différences parce que toute différence est différente de quelque chose. La différence est différente d'un genre. Si la différence est différente d'un genre, vous ne pouvez pas dire que la substance est différente. Vous vous souvenez, il avait fait déjà cette critique dans le livre de l'État. Mais ici, il l'a fait concrètement par rapport à Démocrite. Alors qu'à ce moment-là, il n'a pas fait du tout appel à Démocrite. Ici, il s'appelle à Démocrite parce que Démocrite définit concrètement l'être par le fait d'être situé, d'être dans tel état particulier, telle situation. Alors ici, il va dire non, ça va plus. Vous ne pouvez pas dire que l'être est la différence, parce que la différence est toujours différente de quelque chose. La différence du genre. La différence est relative. Si elle est relative, elle est relative à quelque chose d'autre. Donc vous ne pouvez pas ramener l'être d'une chose à sa différence. Elle implique autre chose, elle implique un genre. Alors, c'est la petite remarque qu'il fait, vous voyez, comme ça, en l'homme, marginal. Dans ces conditions, ce qu'il faut, c'est appréhender les genres qui contiennent les différences. Car ces genres sont les principes mêmes de l'être. Donc si les gens sont principes d'être, je ne peux pas définir l'être uniquement par la différence. L'être implique le genre et la différence. Donc je ne peux pas ramener l'être uniquement à la différence. Or, il est évident que de ces choses, la substance étant la cause de l'être pour chacun. La substance est la cause de l'être. Donc si la substance est la cause de l'être, elle doit impliquer nécessairement tous les principes. Pas seulement les différences. Être un peu aussi le genre, puisque le genre est un principe fondamental d'être plus que la différence, que toute différence appelle le principe du genre. Or, il est évident de ces choses que la substance étant la cause d'être pour chacun. Ici, Aristote reprend la définition qu'il avait donnée au niveau de ça. Qu'est-ce que c'est que la substance? C'est aïtia tu aïna. Bon, ça devient maintenant une donnée acquise. Il peut l'employer, l'utiliser, vous voyez. La substance, c'est justement la cause de l'être. Certes, c'est en ces différences qu'il faut chercher quelle est la cause qui fait que chacun est ce qu'il est. Aristote reconnaît l'importance de la différence. La différence, c'est ce qui nous fait connaître la cause. Mais ce n'est pas la cause. Vous voyez? Donc, on fait une confusion entre le premier connu et la réalité profonde. Voilà ce que Démocrite a fait comme confusion. Il a confondu la manière dont nous connaissons la réalité, nous la connaissons à travers la différence, et puis la réalité, c'est celle qu'elle est constituée. C'est dans ces différences qu'il faut chercher quelle est la cause qui fait que chacun est ce qu'il est. Mais ces différences ne sont pas aussi là. Donc c'est très très net. Vous voyez, alors, le seul moment délicat, c'est de voir à quel moment ils auront la position avec les autres. Parce que c'est bien, il ne va pas critiquer la position de l'autre. Et Tricot ne fait pas beaucoup de l'autre. Il faudrait être une barre, vous voyez. Alors, donc, il affirme, mais les différences ne sont pas obligatoires, mais elles sont analogues à la substance pour chacun. Le ton analogue, 1043 par 5, pour ceux qui s'intéressent à la question de l'analogie chez Aristote. Aristote emploie ici le mot analogue, c'est très intéressant à voir. Les différences ne sont pas substance, mais elles sont l'analogue de la substance. Le ton analogue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, elles jouent un rôle semblable à la substance. Vous savez que le ton analogue, Aristote emploie constamment dans les parties des animaux. Dans les parties des animaux, il montre que tel organe pour tel animal va être remplacé par tel autre organe dans l'autre animal. C'est la comparaison entre les animaux de sang chaud et de sang froid. Les animaux qui ont du poumon et les animaux qui n'ont pas de poumon. Voyez ce qui suit, vous voyez. Et là, il montre qu'il y a toujours des organes de changement et qu'on peut changer. Alors, il emploie le tout analogue. Au fond, c'est vraiment une fonction analogue. Donc, il veut dire ici, ces différences ne sont pas unia, elles ne sont pas substance, mais elles sont une fonction analogue à la substance par rapport à chacun. Parce qu'elles différencient chacun. Chacun est différencié par sa différence. Et bien, comme chacun est lui-même par sa substance. Donc, il y a un rôle analogue de ce que représente le point de vue de la substance et de ce que représente la différence. Et comme dans les substances, ce qui est affirmé de la matière est l'acte lui-même, dans une autre définition, c'est ce qui ressemble le plus. La différence, c'est l'acte. L'acte ultime. Mais on ne peut pas séparer l'acte de la matière. Ce qui montre bien, je continue, en étant tiré cette plus possible, je vais donner l'interprétation ensuite. Ce qui montre bien que l'acte est différent selon les différentes matières. Et energia, alle, almestule. Ça, c'est l'expression qu'il envoie constamment, que nous trouvons par rapport au point de vue de l'acte, c'est que l'acte est toujours relatif d'une certaine manière à autre chose, et donc il est autre et autre. Ce qui montre bien que l'acte est autre selon les autres matières. Il est autre et autre. Il est relatif. Vous voyez ? Alors l'acte est ici dans la perspective de la différence. La différence, c'est ce qui actue. Bien, la différence est relative au genre, donc l'acte est relatif à la matière. Alors, autre la matière, autre l'acte, ou autre l'acte, autre la matière. Il y a une correspondance entre les deux. Donc, ce qui montre bien que l'acte est différent et autre, pour même dire autre, à lui-même, et autre selon les différentes matières. Et le logos également. Tantôt la composition, tantôt le mélange, tantôt autre chose. Voilà les diverses définitions que nous pouvons donner de la maison, en matière et en acte. Il dit ça à la suite, vous voyez, on ne voit pas très bien comment on appelle ça. Toujours la question qui s'est posée. Mais unis les deux, c'est parler de la troisième espèce de substance, celle qui est composée des deux. Donc, voilà la conclusion, donc nous voyons par là ce qu'est la substance et le bon de la substance. Tantôt elle est comme la matière, tantôt elle est comme l'acte et dit autre, hein, dit comme. Tantôt elle est comme la matière, tantôt elle est comme la morte et l'émerveillance, tantôt elle est comme le composé des deux. Voilà la conclusion. Après, on parle autre chose. Alors on dit que c'est pas compris de façon très très nette. Je crois que nous pouvons, à partir de ces notes, saisir en fonction de la conclusion ce qu'il nous dit. C'est que, vous voyez, je suis là, je suis obligé d'interpréter en fonction de cette conclusion qui sort. Je crois que nous pouvons dire ceci. Quand il s'agit des substances composées, si nous voulons savoir le comment de ces substances composées, le comment de leur substance, nous disons que c'est premièrement le point de vue du sujet et donc le point de vue de la matière. Ça, c'est beaucoup plus clair. Cette information est très très claire. La matière est substance du côté du groupe. Deuxièmement, quand nous regardons le point de vue, donc ça, c'est le point de vue des substances considérées en substance. Quand nous regardons en acte, ça devient beaucoup plus difficile. Quand nous regardons en acte, normalement, c'est la forme. Aristote a dit précédemment que la substance n'est pas la forme. Donc, qui est-il de la substance, n'est pas la forme. Ici, il va dire que le fond de la substance, c'est bien d'une certaine manière la différence. Mais faisons attention, ne disons pas la différence est substance. Disons que la différence est l'analogue de la substance. Vous voyez comme c'est précis. C'est l'analogue de la substance, c'est-à-dire que la différence va jouer un rôle comme la substance. C'est ce que nous pouvons dire. En réalité, la substance prise en A, c'est le bon concept. Et donc ce n'est pas seulement la différence, cependant un rôle analogue à la substance. La substance en A, c'est-à-dire les substances sensibles en A, c'est en réalité le composé. Et seul le composé nous fait comprendre le pot de la substance en A. Voilà, je crois, ce qu'il est venu. Vous voyez, et ceci me semble, alors, c'est indiqué dedans, vous voyez. Si vous avez cela, vous pouvez relire le texte, vous verrez qu'on sait très bien ça. Mais c'est très mal, c'est très mal. Le texte est très mal. Il faut savoir qu'il est mauvais, tout simplement. Alors, l'important, donc, c'est de nous saisir que Aristote montre que dans cette perspective du pot, nous avons une vision particulière de la substance, des substances composées. Avec le chapitre 3, que nous allons assez vite, je crois. Avec le chapitre 3, Aristote se pose la question, est-ce que le nom exprime une substance? C'est très curieux, ça. Je vais être très rapide là-dessus. Mais il se pose la question. Alors, je crois que c'est ce point de vue-là. C'est que dans l'ordre logique, le nom joue le rôle de sujet. Alors, est-ce que le nom signifie la substance? Oui, dans l'ordre, nous sommes supposés. Alors, je peux regarder très bien le point de vue de la logique. Dans l'ordre logique, le nom joue le rôle de substance, que j'attribue tout cela au nom. Et le nom joue le rôle de quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Est-ce que le nom exprime une substance composée? Ou bien l'acte ou la forme. Animal exprime-t-il une âme dans un corps ou une âme? Donc quand vous dites le point de vue animal, est-ce que vous exprimez une âme ou est-ce que vous exprimez les deux? Bien, Aristote nous donne des choses, il nous dit ceci, on peut même appliquer le terme animal aux deux sens, non pas comme quelque chose d'exprimable par une définition unique, mais comme se référant à un terme unique. Mais cette ambiguïté est grave dans d'autres domaines et sans intérêt pour notre recherche de la substance sensible, car la fluidité n'appartient de toute façon qu'à la forme et à l'âme. Mais âme et l'être de l'âme sont en effet identiques. Mais l'être de l'homme et l'homme ne sont pas identiques, à moins que l'âme ne soit aussi désignée par le nom d'homme. Alors, dans ce dernier ainsi, à l'un et à l'autre, non. Voilà ce qu'il nous dit seulement. Autrement dit, Aristote dit que le nom peut seulement exprimer le point de vue de la substance, mais n'est pas la substance. Et donc, il faut tout simplement savoir, il faut préciser, le nom peut très bien signifier aussi bien le point de vue de l'âme ou le point de vue du composé. Quand je dis animal, il faut tout simplement préciser. Et alors, il n'insiste pas sur ça. Il dit ambiguïté. Voilà très bien, question de logique. Voilà ce qu'il faut dire, je crois. On est question de. C'est tout le problème de la supposition du nom. On est qui est traité ici. Est-ce que la supposition du nom, c'est dans quelle mesure le nom va jouer le rôle de substance? Dans quelle mesure l'attribut va pouvoir être attribué à ce nom? Alors Aristote n'entre pas dans cette question. Il la pose simplement pour bien montrer qu'il y a là quelque chose d'intéressant à voir, le passage de la métaphysique au passage de la logique. Donc le nom joue le rôle de substance. Mais il ne prête pas la question. Il va tout de suite traiter ensuite quelque chose qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est la question de l'unité et de l'unité dans la définition. Alors là aussi, c'est assez curieux, vous voyez, que ces questions-là ont déjà été traitées, il revient sur ces questions. Et il revient sur ces questions d'une autre manière, et je crois que nous sommes toujours dans l'interrogation du pauvre. C'est ça qu'il faut deviner de ces livres. 1043b5. Aristote revient sur un passage sur lequel est terminé le livre Zeta, où il nous montre, il est manifeste à l'examen, que la syllabe n'est pas constituée par les lettres et leur composition, et que la maison n'est pas les briques et leur composition, et cela se comprend car ni la composition ni le mélange ne sont constitués par les choses dont il y a composition et mélange. Donc vous voyez la fin du livre, c'est ça, c'est exactement la même chose. Il ne montrait pas, mais il y a aussi, hein, tout simplement. Alors il nous rappelle que sans intervenir, que l'esprit là de fait, ce n'est pas seulement les compositions qu'il y a autre chose. Ce que c'est la syllabe, donc ce ne sont pas les éléments et la composition, c'est quelque chose d'un. Ce quelque chose est la substance. C'est cause de l'être. Alors je crois que c'est le problème donc de l'unité sur lequel Aristote va revenir. Il va saisir immédiatement donc comment la substance, c'est l'unité dans le composé. La substance en art, c'est le composé. Mais est-ce que le composé possède-t-il encore une unité? Puisque de fait, la substance est une. Si le composé n'est pas un, comment voulez-vous que ce soit substance? Puisque la substance possède une unité, est une unité. Donc c'est tout le problème de la manière dont le composé possède une unité. Vous voyez, c'est le pôle de l'unité du composé. Je crois que c'est cela. Encore une fois, c'est difficile à dire puisque de fait, il n'est pas, mais il suffit de lire loyalement le texte et il dit de bien serrer tous les tournants. N'est-ce pas? Alors, quand vous serrez tous les tournants, vous voyez qu'il n'y a pas un ordre logique qui apparaît immédiatement. On traite certaines questions, juxtaposées les unes à côté des autres. Et toutes ces questions, si vous les regardez du point de vue du comment, vous voyez que tout est social. Il va donc préciser, c'est tout via, hein, c'est tout via composé. Ou elle est éternelle, ou elle est campagne. Donc c'est encore une propriété du pauvre. Il n'a pas du tout traité ça parce qu'il s'agit du pied. Qu'est-ce que c'est que la substance? Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du pauvre, on comprend très bien qu'il regarde ce point de vue-là. Parce que quand il s'agit du pauvre, la manière d'exister d'une substance implique le point de vue d'éternel et le point de vue du corruptible. Oui, c'est très important parce que je crois qu'Aristote ici reprend tout ce que Platon a dit sur la substance, mais il ne reprend pas au niveau du ci-et-ci, mais il reprend au niveau du pauvre. Donc, sous-jacent, il y a cette critique qu'Aristote fait à Platon, car Platon a confondu le pauvre et le ci-et-ci. C'est ça qui est derrière, voyez bien. Parce que la question pour Platon, la substance est immédiatement éternelle ou immédiatement corruptible. Et entre ces deux aspects-là, il n'y a aucune communion. Tandis que pour Aristote, tous les deux sont substance. Mais en tout temps, soit éternel, soit possible. Et ça fait deux manières différentes d'être substance. Oui, donc, on ne peut pas dire que éternel et corruptible sont des propriétés de la substance, mais éternel et corruptible sont des propriétés du corps de la substance. Donc la division de Platon était fausse, parce qu'elle divisait le qui est-ce la substance, alors c'est le livre fausse. Oui, comme vous avez compris le lien, vous voyez pourquoi ces choses-là arrivent. Elle est très astucieuse, parce que c'est une critique très très forte de montrer que si on comprend le ciel et le pauvre, vous comprenez très bien comment tout ce livre n'est pas arrivé là pour montrer que nous ne pouvions pas vraiment critiquer Platon tant que nous n'avions pas critiqué le ciel et la substance. Une fois qu'on a fait ça, alors on revient au pauvre, on voit que c'est une division du pauvre. Vous voyez, je vous prie au père, hein, les divisions du pauvre telles qu'il est donné dans le livre. Donc alors à ce moment-là, vous verrez qu'il suit le problème de la division. Hein? Aristote est très sensible à la division, vous savez bien, c'est normal, parce que Platon est très sensible à la division. On ne divise pas de la même manière le qui est le faux. On ne divise pas de la même manière. Ça marche. Et alors, les divisions qui s'opposent ne s'opposent pas de la même manière si vous êtes au niveau de la manière dont une chose existe, et au contraire, quand vous êtes au niveau du qui est le faux. Donc, cette ouvia, elle est éternelle ou elle est corruptible? Corruptible sans corruption, générable sans génération. Puisque la substance comme telle ne peut pas impliquer la corruption. Elle ne peut pas impliquer la génération. Alors il a ces expressions qui sont très curieuses. Il dit que l'ouvia est corruptible sans corruption. Elle est générable sans génération. Car la forme n'est pas produite. Alors oui, alors on va voir la contradiction qu'il va y avoir ici, qui va être très intéressante ici, parce que vous vous souvenez, dans le livre précédent, au niveau des états, il avait montré comment le point de vue de la substance ne pouvait pas être le tiesti de la forme. Et pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agissait de la génétique, le point de vue Casbon était antérieur à la génération. Mais être antérieur à la génération ne veut pas dire être antérieur à l'autre. Donc nous reprenons ici le même problème, mais vu d'une autre perspective. Alors, si vous faites, puisque là, le ciel n'est pas, il est très rapide, parce que le fait qu'il a des notes assez simples, de façon à tout développer. Car la forme n'est pas produite. Car tel être déterminé, est engendré. Autrement dit, c'est le composé qui est engendré. Ce n'est pas la forme. La forme comme telle est au-delà de la génération. Elle est au-delà de la corruption. C'est le composé qui est proprement corruptible. Quant à savoir si les substances des êtres corruptibles sont séparées, hein, ce n'est pas encore évident. On ne peut pas encore raisonner. C'est intéressant à voir, non? Progressivement, l'interrogation est énorme. Quant à savoir si les substances des êtres corruptibles sont séparées, ce n'est pas encore évident. Aristote se pose donc cette interrogation. Il s'était déjà posé cette interrogation dans les aphorismes, il se la repose maintenant. Est-ce que le pose de la substance nous permet d'affirmer qu'il existe des substances des êtres corruptibles qui sont séparés? Et nous dit non, on ne peut pas le prouver encore par le point de vue du pose. Ce sera la théorie de l'émerveillant, ce sera par le point de vue de l'art et de la substance qu'on pourra donner une solution. Vous voyez comment il avance progressivement pour voir comment certaines solutions sont données et comment d'autres solutions ne sont pas données. C'est évident que pour certains, cette séparation est impossible. Voilà ce qu'on peut dire. On peut dire qu'à l'égard de certaines réalités composées, on ne va seulement pas dire que leur forme puisse être séparée. Il s'agit des œuvres d'art. Les œuvres artistiques, là on peut être sûr de dire quand il s'agit des œuvres artistiques, que leur forme ne peut jamais exister en dehors de la matière. Vous voyez bien, le cercle des reins. Le cercle des reins, il existe dans les reins, il peut exister dans le bois. Mais le cercle ne peut pas exister tout seul, en dehors de la pensée. Il n'existe pas. Donc il n'est pas une substance qu'on pose à ce peut-être du reste, et alors c'est une petite remarque intéressante sur laquelle il viendra, peut-être du reste, ces choses ne sont pas substances. La première fois, on nous montre ici aussi, nous sommes dans le pose. Est-ce qu'une œuvre d'art est une substance? Une œuvre d'art dit peut-être. Peut-être que ces œuvres d'art, ces œuvres artistiques, le cercle dans le cercle des reins, peut-être que ce ne sont pas des substances. Parce que ne sont substances que ceux qui existent naturellement, tout d'abord. Donc Aristote ici va fonder l'ousia sur la physique. Quand il s'agit du pauvre, on est que c'est un passage très intéressant. Il avait déjà touché le problème, et là aussi, il le prend d'une façon beaucoup plus profonde. Vous voyez, c'est toujours le pauvre. Comment, de fait, les substances sensibles existent-elles? Nous avons des réalités composées. Les substances sensibles n'existent en art que dans le composé. Voilà ce qui est acquis. On se pose la question, est-ce que de fait, leur force pourrait exister en dehors de la matière? Ça, ne peut pas. Ce qu'on veut dire, c'est que pour certaines réalités, on peut absolument dire que leur force ne peut pas exister sans la matière. Il s'agit des œuvres d'art. Si les œuvres d'art sont telles, c'est une substance. Beaucoup de chance que non. Ils ne donnent pas une affirmation absolue. Beaucoup de chance que non. Seules les réalités naturelles peuvent être des substances. Donc vous pouvez dire, par le fait même, que l'Ousia se fonde sur la folie. L'Ousia et la folie, ce n'est pas la même chose. Même si maintenant on soit souvent l'un pour l'autre, Aristote peut aussi employer l'un pour l'autre souvent, mais quand Aristote les compare comme il dit ici, il n'emploie pas du tout la même chose pour folie et Ousia. Alors il faut bien se dire la différence. Hein. Folie, nous parlons pas d'un principe immanent, de devenir. C'est le devenir, c'est le mouvement. C'est pour l'être sensible et mobile. Tandis que Ousia, c'est un principe d'être. C'est le principe de l'être. Donc c'est la cause de l'être. En tout Aristote, c'est toujours une distinction entre devenir et l'être. Donc la Ousia, c'est au niveau du devenir. C'est un principe immanent du devenir. Tandis qu'au contraire, Ousia est un principe immanent de l'être. Alors, c'est intéressant de voir ici, quand il s'agit des substances sensibles ne sont substances sensibles que des substances naturelles, c'est-à-dire dans lesquelles que vous la trouvez. Quand il s'agit des œuvres d'art, qui sont autre chose que les substances naturelles, évidemment, il n'y a pas de substance. Il n'y a qu'une exode. Il y a une forme, des œuvres d'art ont une forme. Oui, c'est encore un argument qui montre que la substance soit une forme. Parce que les réalités naturelles, les réalités qui impliquent une nature, et les œuvres d'art, toutes deux peuvent avoir une figure. Toutes deux peuvent avoir une forme. Une réalité artistique implique une forme, une exode. Une réalité naturelle implique une exode. Donc, elles sont communes dans l'exode, elles se distinguent dans la vie et dans le vie. Oui, comment, si vous ne voulez pas me protéger de votre manière, c'est encore un argument, je crois, Aristote avant aussi, pour bien montrer que Lousia n'est pas exode. Donc, quand vous voyez les œuvres d'art, vous prenez maintenant un cercle rapidement, les œuvres d'art, et la réalité sensible, la réalité naturelle sensible, une distinction qu'Aristote donne au début de la physique, une distinction qui est capitale pour lui, c'est que c'est celle-là qui nous permet l'induction de la nature. C'est cette distinction première entre les œuvres d'art et les réalités naturelles qui nous permettent de faire, d'induire le principe de la nature. Alors, les œuvres d'art et les réalités naturelles peuvent communier dans une même forme. Pas la forme de la statue correspond à la forme de l'homme. C'est la même forme, et donc ils communiquent dans les formes. Et au point de vue des formes, on se dit que l'œuvre d'art a une forme, la réalité naturelle a une forme. Évidemment, ces formes sont différentes, mais au fond, toutes les deux communiquent dans les formes. Ce que vous voyez, c'est que l'œuvre d'art n'a pas de substance, alors que les réalités naturelles ont une substance. Ce qui veut dire que la forme des réalités naturelles s'enracine dans une lumière, tandis que la forme de l'œuvre d'art s'enracine dans une lumière. C'est les deux opposés par tout à fait. La forme de l'œuvre d'art s'enracine dans le monde, tandis que la forme de l'œuvre d'art s'enracine dans l'univers. Seule la réalité naturelle dans l'univers. Alors, je m'arrête ici, je terminerai le prochain chapitre de ce livre, en vous donnant encore quelques petites remarques sur ces fausses. Je ne veux pas m'attarder trop, vous voyez, ça n'a plus rien au moins des principes, par rapport à ce qu'on a déposé là. Absolument, c'est très intéressant, c'est que toutes les distinctions qu'on était données avant sont utilisées. Et sont utilisées dans cette perspective du monde. Oui. Alors, si on faisait l'analyse de ce livre état par rapport au livre état, il faudrait voir que toutes les distinctions précédentes sont utilisées dans une perspective, nous dirions, existentielle, mais bien en comprenant bien, c'est-à-dire de la manière dont les choses existent.